Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de l'histoire des colonisations. Aujourd'hui, nous continuons notre série sur la colonisation irlandaise, sa conquête et sa colonisation ultérieure. Quand s'arrête l'un, quand commence l'autre, c'est une vraie question. La dernière fois, les troupes anglaises s'apprêtaient à venir en Irlande, après que Dermot, roi de Leinster, eût été quémandé de l'aide après s'être fait déchoir de son trône. J'espère que cette série va nous aider à refléter un peu nos appréhensions, nos visions, peut-être nos préjugés, nos clichés sur d'autres colonisations qu'on verra ailleurs. En tant que Français, c'est peut-être plus simple de comprendre des dynamiques qui se passent en Irlande médiévale, avec des gens géographiquement et culturellement plus proches que ce qui a pu se passer à Java au XVIe siècle, un contexte qu'on connaît en général beaucoup moins. Sur ce, commençons.
D'histoire en histoire, en cycle de légende, il y en a une dans ma mémoire qui restera parmi les grandes. C'est pour Pépayenne, près du pays du clan des Landes, en pleine terre d'Ulster, province de l'Irlande. Histoire d'un gamin, encore un jeune fougueux, à peine 7 ans, il a déjà le feu dans le bleu de ses yeux. Les druides lui ont prédit un drôle d'avenir, un choix à faire, la conséquence...
1166. 70 ans nous séparent alors de la première croisade. 105 ans nous séparent de l'établissement du comté de Sicile. Un siècle nous sépare d'Hastings. C'est alors le siècle normand. C'est l'âge d'or de ces hommes du Nord, installés en Normandie depuis que Charles le Simple donna la Normandie aux Vikings Rollons en 911 au traité de Saint-Clair-sur-Epte. Les Vikings finissent alors leur long élan sur le continent. Rollon avait pour rôle de garder la Seine contre les invasions vikings, ses compatriotes. La France fut moins vulnérable aux raids, et tout alla bien pour l'éternité. Évidemment. Après quelques générations, ces Normands, tels qu'on les appelle alors, les hommes du Nord, Norsemen, sont bien installés, sont francisés en grande partie, et surtout, ils sont prêts à repartir à l'assaut. C'est la fureur des hommes du Nord, liée à l'industrie et à la technologie française. Et à nos chevaux. Ça va donner des chevaliers redoutables, qui s'assemblent dans des charges de cavalerie dévastatrices. Ça va nous donner quoi? Ça va nous donner 1066, avec la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant, mais aussi les croisades du Levant, qui sont menées en grande partie par des Normands, la conquête de Sicile, de l'Italie du Sud, mais aussi des combats terribles contre l'Empire romain d'Orient, qui faillit s'effondrer à cause de ça. 100 ans après le plus grand succès normand, l'effondrement du système politique anglais et sa colonisation à grande échelle par la Normandie, l'histoire va se répéter. Comme en 1066, la bénédiction papale est accordée. Comme en 1066, un royaume celto-scandinave va être attaqué par des troupes normandes et leurs alliés des Flandres pour récupérer un titre royal basé sur des prétentions discutables, on va dire, mais on va y revenir. L'Angleterre tremble alors dans des guerres intestines. Un roi faible annonce la fin de la dynastie des Hauteville en Sicile. Les royaumes croisés d'Orient semblent alors ascendants. Ils occupent Jérusalem, la ville trois fois sainte. Mais d'ici 4 ans à peine, l'Égypte et la Syrie deviendront une, un seul grand royaume musulman, prêt à reprendre la Terre Sainte. Nous sommes alors en 1166, et le crépuscule semble tomber sur ce siècle normand. Et pourtant, tout n'est pas complètement fini. Dermot MacMurrough, roitelet de Leinster, avait perdu son royaume. Il avait été abandonné par ses propres vassaux sur le champ de bataille. Ce n'était pas une trahison pour l'argent, ou alors une grande ruse, mais le désaveu d'un roitelet mal aimé par ses sujets et par ses alliés, qui ne sont du coup plus ses alliés. Ça s'inscrit dans des luttes de pouvoir, il est trop puissant pour ses voisins, notamment le nouveau haut-roi, Rory O'Connor. Le haut-roi, ça nous paraît très puissant, mais en fait c'est un titre symbolique. On n'est pas puissant parce qu'on est au roi, on est au roi parce qu'on est le plus puissant. Alors oui, Ilo aurait été trop puissant, mais il n'a pas été suivi par ses alliés. Il a été trahi, laissé sur le champ de bataille et capturé par ses ennemis. Alors, il avait été banni de l'île d'Irlande, exilé par le haut roi d'Irlande vainqueur, Rory O'Connor, et normalement, suivant les usages de l'époque, et si son honneur le lui avait suggéré, il aurait dû consommer sa honte dans un monastère quelque part. Quelque chose qui se faisait beaucoup. Mais son honneur étant aux abonnés absents, Dermot décide de prêter allégeance au roi d'Angleterre et d'aller quémander des mercenaires pour reprendre ses terres avec le soutien de l'étranger. En regardant la situation de notre point de vue, il serait facile d'y voir une trahison. L'était-ce vraiment ? On y reviendra. C'était pas la dernière fois que Rory O'Connor faisait preuve de mansuétude envers un Dermot vaincu en lui laissant la vie. C'était pas non plus la dernière fois que cette erreur allait lui coûter assez cher. Un peu de contexte. Dermot MacMurra était allié au haut-roi précédent, donc il faisait partie des cercles du pouvoir. Mais en 1166, ce haut-roi précédent est assassiné par Rory O'Connor, qui devient roi immédiatement. Il décide d'attaquer Dermot en Leinster, au sud de Dublin. Dermot, qu'on vient de le dire, est banni et va plaider sa cause au roi d'Angleterre. Voilà. Henri II est roi d'Angleterre. C'est aussi l'arrière-petit-fils de Guillaume le Conquérant, et il a d'autres chats à fouetter parce qu'il est marié à Aliénor d'Aquitaine. Une des grandes règles, hein, c'est que être marié à Aliénor d'Aquitaine a tendance à provoquer quelques troubles historiques. Henri II n'a pas vraiment grand-chose à donner à Dermot, ou en tout cas, il ne souhaite pas lui donner grand-chose, souhaitant mettre ses ressources ailleurs. Donc, il va juste lui permettre de recruter qui bon lui semble en royaume d'Angleterre. Il peut aller avec ses petites bannières, ses petits flyers, et dire « Est-ce que ça vous intéresserait de m'aider à récupérer Leinster ?» Ça ne lui coûte pas grand-chose. D'autant que fait Henri II ? Eh bah, il lui demande que cette permission de recruter sans autre soutien que cette permission s'accompagne d'un serment d'allégeance. Dermot doit prêter allégeance à Henri II, et son royaume devient donc vassal du royaume d'Angleterre, se désolidarise du reste. C'était aussi ce qu'Henri tentait de faire avec l'Écosse, hein. Il tentait d'asseoir la domination anglaise sur les autres royaumes de Grande-Bretagne. On n'en a pas trop parlé, et on ne va pas en parler très longtemps, mais en fait, il y a quand même une histoire très croisée avec l'Angleterre, l'Irlande et l'Écosse. Les Scots sont à la base, c'est un peuple irlandais qui a envahi l'Écosse actuelle et a tabassé les Pictes. Plus tard, c'est une expédition écossaise qui viendra tenter de bouter les Anglois hors d'Ulster. On est un peu dans un système monde hein, dans les îles britanniques, et il est tout aussi important d'avoir ça en tête que, dans l'histoire de France, de comprendre un peu l'histoire de l'Italie et de l'Allemagne. Sinon, les choses sont plus compliquées à comprendre. Les seigneurs ont des terres dans de multiples royaumes avec de multiples allégeances. C'est compliqué et ça fait des leviers d'influence. Mais concrètement, c'est pas de ça dont on parle aujourd'hui. Dermot ne prend pas des terres ailleurs. Il fait juste allégeance à Henri pour sauver sa pomme. Est-ce vraiment une trahison ? En l'absence d'un État irlandais, il ne s'agit pas vraiment de trahison, même si c'est quand même une sacrée rupture. Parce que auparavant, l'Irlande était un tout politique. Pas un État unifié, mais une collection de royaumes, nominalement, occasionnellement, sous la tutelle du roi. En passant sous l'allégeance anglaise, en souhaitant passer sous l'allégeance anglaise, il fait quand même une sacrée rupture dans l'histoire du pays, donc casse des siècles, voire des millénaires de système politique, pour sauver sa pomme. Sans que ce soit une trahison, forcément, quoi qu'on puisse en débattre, c'est quand même... faut quand même avoir un peu de culot. Bref, Dermot va donc recruter des nobles pour l'aider à reprendre Leinster. Et il va rencontrer un certain succès auprès des marginaux, des nobles en déshérence ou ayant des choses à se faire pardonner par le roi. Un seigneur du pays de Galles, tombé en défaveur, Robert Fitzgerald de Clare, qu'on va désigner d'après son surnom, hein, Strongbow comme le cidre, va l'aider. Strongbow est un seigneur puissant, un noble des marches galloises, un combattant aguerri. Mais surtout, Strongbow a fait le mauvais choix dans une guerre civile il y a quelques années, et n'a pas vraiment d'opportunité d'avancement, il n'est pas dans les bonnes grâces du roi. Dermot lui a promis sa fille, et la succession au royaume de Leinster. C'est un magnifique prix, hein, une magnifique opportunité de passer de comte des marches à roi. Dermot revient en Irlande dès 1767, avec quelques mercenaires. Le gros de la troupe n'est pas encore rassemblé, mais il veut battre le fer tant qu'il est chaud. Il reprend son royaume très rapidement, mais Rory et Connor et ses alliés arrivent et l'éclatent sur le champ de bataille. Mais Rory O'Connor, le haut roi d'Irlande, va lui permettre de garder son royaume contre 7 otages. Dermot doit, de plus, donner 3 kilos d'or à Tiernan O'Rourke en compensation du fait qu'il lui ait piqué sa femme quelques années auparavant. C'est le seigneur cocu dont on a parlé la dernière fois. Au cours de l'or, ça fait 150 000 euros. Hein, pour une crasse pareille entre rois, c'est quand même pas très cher payé. Alors, on peut commencer à se poser la question de pourquoi Rory O'Connor n'a pas fait tuer Dermot sur place, ou au moins, je sais pas, lui faire couper une main, l'éborgner, des choses qui l'auraient empêché de régner. Mais non. Quelques otages et un peu d'or. Gardons cette question dans un coin de la tête, on va y revenir. Dermot s'est donc pris quelques baffes et a perdu de l'argent. Tout ça pour ça, en somme. Hein. Mais ses ambitions ne s'arrêtent pas là. Il ronge sans frein. Il veut plus que son petit royaume. Il veut le pouvoir. Il veut la vengeance. Il veut l'Irlande tout entière. Il envoie des lettres et recontacte Strongbow. En 1169, une nouvelle petite force de mercenaires arrive. 40 chevaliers, 60 hommes d'armes et 360 archers. Ils prennent Wexford en 2 jours. Wexford, c'est un des grands ports en bas à droite de l'île. Puis, Dermot et ses troupes décident de marcher vers l'ouest avec sa petite armée. Alors, on imagine qu'il devait avoir plus que ses 460 gars, hein. Il avait ses propres troupes après tout. Mais Dermot n'avait pas encore réussi à reconquérir tout Leinster, donc son armée propre ne devait pas être immense, d'autant que son armée s'était déjà fait éclater 2 ans auparavant, comme on l'a vu. Donc, 460 anglo-normands. Mettons un peu les choses en perspective, hein. 500 gars. Concrètement, ça remplit à peine une cour de récré d'une école primaire, si on les aligne bien. C'est pas énorme. Mais catastrophe! Une armée ennemie leur fait face. 3000 hommes d'un autre roitelet. Serait-ce déjà la fin de l'aventure? Surprise, stupeur! Prenant peur face aux troupes normandes, ces 3000 hommes décident de rejoindre l'armée de Dermot. Dermot va remonter vers Dublin, prendre la ville et reconquérir les seigneurs rétifs de Leinster, avec l'aide de ses mercenaires normands. Rory O'Connor voit que ça commence à être compliqué, donc il fait rassembler ses troupes. 30 000 hommes, une bataille épique s'annonce. Et bah non, pas de bataille épique. Une négociation. Le reste de l'Irlande, toute l'Irlande, contre Leinster, qui est pas le plus petit des royaumes, mais qui n'est qu'un seul petit royaume, compte quelques mercenaires. Et c'est quoi le résultat de la négociation ? Et bah Dermot reste roi de Leinster, mais doit abandonner Dublin et accepter la suzeraineté du haut roi, Rory O'Connor. Ce qui n'est pas très cher payé quand on y réfléchit. Hein. En soi, c'est un retour au statu quo. Parce que Dermot, avant qu'il se fasse éjecter en 1166, n'avait pas Dublin. Et il aurait dû prêter allégeance au haut roi. Donc certes, il est humilié par la défaite, mais en soi, son objectif principal, il est rempli. Il est redevenu roi de Leinster. Il a récupéré son trône. Mais comment? Pourquoi? Comment s'expliquer ce choix de Rory O'Connor, hein, cette mansuétude, presque cette pitié, pourrait-on penser, pour quelqu'un qui, manifestement, n'est pas là pour rester assis gentiment à sa place, pour un allié de l'ancien haut roi, un roitelet qui est prêt à faire venir des mercenaires étrangers pour étendre son influence et casser des siècles et des siècles de système politique. Pourquoi ne pas juste abattre Dermot sur place, brûler son château, ramener son bétail, ne laisser que ruines et cendres ? Dermot s'était déjà fait battre avant son exil. Ses troupes irlandaises ne faisaient pas le poids face aux troupes du Haut-Roi. Face aux troupes du reste de l'île combinées. Alors ? Eh ben alors, il faut conclure que ce sont les quelques mercenaires normands qui ont fait la différence. On va reprendre, quelques instants, une des grandes sources sur ces événements. C'est le poème « Dermot et le Comte » qu'on a évoqué la dernière fois. Souvenons-nous, c'est un poème en ancien français, donc postérieur à la conquête, écrit par des Normands, pour des Normands. Néanmoins, on peut y trouver quelques éléments de réponse. Je l'ai, entre guillemets, retraduit en français plus moderne pour vous épargner des prononciations approximatives et surtout quelque chose d'assez dur à comprendre. Le passage du poème, qui est très long, parle d'une bataille contre les hommes d'Osrei, qui est un autre petit royaume. Seigneurs, barons, tous, passons cette vallée. Que nous fussions en la montagne, sur les champs durs et sur la plaine, car nous sommes plus armés, vassaux, hardis et combattants. Eux, les traîtres, sont tous nus, ne portent ni aubert ni cuirasse. Ainsi, si nous les trouvons sur la plaine, leur mort est garantie. Ensemble, cavaliers et soldats, nous tuerons ensemble les hommes d'Osrei. Et ben voilà, des cavaliers, des armures, des troupes habituées à se battre ensemble. Les Normands venaient d'un monde féodal, où le rôle d'un noble était d'apprendre à se battre, et où toute l'économie était dirigée vers leur entretien et leur équipement. C'est ça le monde féodal, il y a une logique. L'État central était trop faible pour coordonner une armée, pour coordonner vraiment un État au sens moderne. Mais il devait quand même rassembler des ressources pour se défendre. La féodalité permettait d'avoir des hommes déjà formés et équipés. Imaginez, il y a un raid du voisin. Il faudrait que l'information remonte à Paris, que des messages soient envoyés aux armées, et que cette armée se déplace au champ de bataille. Le temps que ça se passe dans un système avec concrètement des chevaux et des routes en terre, l'ennemi il est déjà parti, ou il a pris un château, c'est impossible de le déloger. A l'inverse, une organisation très décentralisée est beaucoup plus logique, sans ces outils de coordination. Les Normands en sont l'exemple typique. Ils sont entraînés à tuer dès l'enfance, et sont équipés de la pointe de la technologie, des armures et des chevaux. La Sicile, l'Angleterre, la Terre Sainte y avaient succombé. Comme on l'a dit, l'Empire romain d'Orient même avait frôlé la catastrophe de nombreuses fois à ce moment-là. Ces cavaliers étaient des troupes de choc. On va se rappeler un vieil épisode sur la conquête portugaise du Maroc. Un chevalier en armes, sur un cheval, concrètement, ça fait environ une tonne. Ça fait le poids d'une voiture. Alors imaginez, il y a une voiture qui est lancée sur vous à 50 km/h avec une épée et la ferme intention de vous tuer. Si cette voiture a une lance, c'est tout le poids de la voiture, toute sa vitesse, concentré dans la pointe. Et cette pointe fonce à 50 km/h droit sur votre poitrine. C'est ces forces d'élite-là qui forcèrent Rory O'Connor à la négociation. Le parallèle des colonisations plus tardives est aussi simple. Combien de fois on a vu des petites troupes portugaises tenir en échec des milliers d'Indiens ? En Indochine, au 19e, 300 hommes pouvaient prendre en quelques heures les forteresses les plus défendues. C'est ces cœurs de troupes d'élite, parfois alliées aux locaux, qui fait la différence. Puis, après avoir fait la différence, elle noyote l'allié. Puis, elle remplace l'allié et prend le trône. Par exemple, les Mamelouks d'Égypte. C'est ce qu'on a vu aussi en Inde, c'est ce que nous voyons ici. Rory O'Connor craint une bataille rangée, malgré son immense armée, à cause de ses quelques 40 chevaliers, 60 hommes d'armes et 360 archers. Eh ben, en 1171, Strongbow débarque avec 200 chevaliers et 1000 soldats. Quel objectif ? Prendre Dublin. Cette ville si riche, ce port si sûr qui fait face à l'Angleterre. Mais aussi, punir les seigneurs rebelles de Leinster et asseoir le pouvoir de Dermot, à présent beau-père de Strongbow, vu qu'il a épousé sa fille. 40 chevaliers avaient forcé Rory O'Connor à négocier, et Dermot commençait à avoir de nouvelles idées, de nouvelles ambitions. 40 chevaliers avaient pris Wexford en 2 jours, et avait mis à genoux une armée de 3000 soldats irlandais. Que pouvait-il faire avec 200 chevaliers ? Alors, Rory O'Connor, évidemment, il lève ses bannières, il rassemble son armée et il se place près de Dublin pour protéger la ville. Mais alors, l'armée normande, avec armes, chevaux et bagages, passe par des petits chemins de montagne, un exploit logistique. L'armée du haut roi irlandais est prise à revers. L'encerclement de protection est brisé, Dublin est prise, Drury doit se retirer et les seigneuries rebelles de Leinster sont ravagées. Puis, c'est le coup de théâtre. Dermot meurt soudainement. Strongbow force la succession et devient roi de Leinster. La première fois qu'un noble anglo-normand devient seigneur en Irlande. Mais cette succession est contestée. Les seigneurs locaux, notamment la famille, le clan de Dermot qui aurait dû hériter, se soulèvent. Et Rory O'Connor en profite pour les soutenir. Comme en 1066 avec Guillaume face à Harold Godwinson, on trouve deux logiques de succession, deux logiques qui s'affrontent. Dermot avait promis le royaume à Strongbow après tout, hein, mais on reviendra sur l'aspect légal de la chose plus tard. Ce qui compte. Les Normands sont chassés de Wexford. Dublin est assiégé. Une grande flotte hiberno-scandinave bloque la baie de Dublin. Rory O'Connor est sûr de pouvoir affamer les Normands. Pendant 2 mois, le siège continue. La famine s'installe. La ville n'est tout simplement pas faite pour subsister aussi longtemps sans livraison de nourriture, particulièrement avec tous les soldats et les chevaux. Chaque cheval, ça mange une tonne de fourrage par jour. Chaque chevalier doit aussi avoir une alimentation assez riche. C'est des athlètes de haut niveau, ils doivent entretenir leur masse corporelle. Alors le siège traîne. Il traîne jusqu'à ce que les Normands acceptent de négocier. Les termes sont durs. Les Normands pourraient garder Dublin, Wexford, Waterford, 3 des ports, mais plus de Leinster, plus de terre. Ils ne seront pas des roitelets irlandais. Rory se sent dans une position de force. Du moins jusqu'à ce que pendant la nuit, les Normands fassent une sortie et massacrent ses troupes. Il est forcé de se retirer, laissant la victoire et Dublin aux Normands. Encore une fois, une attaque coordonnée par des troupes d'élite renverse le sort du pays. La situation s'aggravait pour le Haut-Roi. Son armée, ses meilleures troupes brisées par les Normands, par Strongbow, qui devenait un des acteurs les plus puissants de l'Irlande. Capable d'avoir son royaume, peut-être même capable de conquérir le reste de l'île. Et après, qu'est-ce qui arriverait après? Où s'arrêterait son ambition? Rory O'Connor en était conscient, mais c'était pas le seul à sentir ce danger. Nous sommes le 17 octobre 1171. Henri II, roi d'Angleterre, débarque en Irlande, craignant que Strongbow ne crée un royaume concurrent. Il n'est pas très loin, le temps où les aventuriers normands se taillaient des royaumes et concurrençaient leurs seigneurs. Henri II n'était-il pas justement aux prises avec Louis VII, roi de France, et son suzerain? Et il vient pas seul, évidemment. Il vient avec des moyens royaux. C'est plus 40 ou 200 chevaliers qui débarquent, mais 500, avec 4000 hommes d'armes, des archers, des équipements de siège. Là où le Haut-Roi avait été vaincu par l'armée de Strongbow, celle d'Henri s'y ajoutait, et elle était 20 fois plus nombreuse. Et elle était là, avec un objectif. Arrêter ce vassal trop ambitieux. Les Normands, la couronne anglaise, réaffirment leur suzeraineté. Strongbow garde Leinster, mais les grands ports, Dublin, Waterford, Wexford, deviennent terre de la couronne anglaise, empêchant ainsi que des renforts arrivent. Henri repart en avril 1172, mais pas avec toutes ses troupes. Et la guerre va continuer jusqu'en 1175. Mais voilà, l'issue, elle est évidente. L'armée normande, elle est taillée pour la guerre de conquête. C'est des troupes d'élite, surentraînées, suréquipées, qui sont capables, et on l'oublie souvent, de couvrir le pays de châteaux, de mottes, de remparts, contre lesquels les guerriers irlandais n'ont pas de parade. En 1175, le traité d'Oxford est signé. L'Irlande est coupée en deux, avec une partie sous influence et contrôle anglais. L'autre est rattachée au Haut-Roi irlandais, Rory O'Connor. Mais Rory devra quand même payer un tribut au roi Henri. 1175, l'Irlande passe sous contrôle anglais. Nous sommes aujourd'hui en 2023, et encore aujourd'hui, nous ressentons les échos de la trahison de Dermot, de la venue de Strongbow, et les tremblements causés par le pied d'Henri foulant une plage irlandaise.
D'histoire en histoire, en cycle de légende, il y en a une dans ma mémoire qui restera parmi les grandes. C'est pour Pépayenne, près du pays du clan des Landes, en pleine terre d'Ulster, province de l'Irlande. L'histoire d'un gamin, encore un jeune fougueux, à peine 7 ans, il a déjà le feu dans le bleu de ses yeux. Les druides lui ont prédit un drôle d'avenir, un choix à faire, la conséquence...
Il y a un aspect qui est assez intéressant, et qui vaut la peine qu'on s'y attarde une seconde. C'est le rôle du droit et de son utilisation pour justifier et soutenir une invasion. En 1175, Henri II signe donc son traité avec Rory O'Connor. C'est le traité d'Oxford. Le traité d'Oxford va donner à Henri II une zone d'influence sur la moitié de l'Irlande. Il s'agit d'un traité féodal. Rory O'Connor va reconnaître l'autorité d'Henri II, mais va garder l'administration de la moitié de l'île. Rory O'Connor est un roi sujet, mais reste roi. Mais en fait, Henri II ne peut pas dévouer trop de ressources à l'Irlande. Son fils s'est révolté 2 ans auparavant, la guerre contre la France continue, l'Écosse le regarde bizarrement, et le Pays de Galles est à peine soumis. En fait, c'est probablement dans ce contexte qu'il faut voir ce traité, qui laisse Rory en place. Henri n'avait pas les ressources pour tout conquérir, et surtout pour tout tenir. L'Irlande, comme on sait, c'est un pays de vallons, de collines, de forêts, sans grande ville à cette époque. Donc, c'est pas forcément idéal pour tenir un pays qui ne veut pas être tenu. Si les troupes normandes sont parfaites pour détruire une armée ennemie sur le champ de bataille, les guerriers irlandais, eux, sont adaptés à la petite guerre, les razzias, la résistance. C'est la guerre que eux sont habitués à faire. Et les soldats normands, de leur côté, sont trop peu nombreux et mal équipés pour y répondre. Henri a donc besoin de Rory pour éviter ce genre de campagne de petite guerre, comme il avait pu avoir au Pays de Galles, qui n'est toujours pas pacifié à cette époque. Après, ce qui va se passer, ça va être franchement un peu un classique des colonisations. Et on va rester poli, on va dire que les roitelets irlandais aux frontières vont être assez myopes. Ceux qui sont dans la zone d'indépendance gaélique, donc qui n'ont pas été forcés de faire allégeance, vont très souvent faire appel aux seigneurs normands pour régler leurs disputes. C'est pas malin, parce que concrètement, ils font appel à ces normands pour asseoir leur propre domination sur un voisin, mais sans volonté de faire allégeance aux Anglais. Sauf que, une fois l'ennemi vaincu, et les forces normandes bien installées, connaissant bien le terrain, et connaissant bien les troupes aussi. Et bah, bonne chance pour les faire partir en fait. Souvent, les roitelets qui font appel aux soldats normands vont perdre la suzeraineté de leur terre et juste se faire expulser en fait. Le traité, dans ce sens-là, va en fait être un minimum, une sorte de plancher de conquête pour les normands. Le traité va délimiter une aire d'influence pour Rory O'Connor, et tout l'est de l'Irlande n'est plus sous son contrôle. Qu'il tente d'y intervenir, ce serait un casus belli. Par contre, le traité a été imposé par Henri, et Rory est un roi vassal. Donc Henri peut imposer ses règles et ses lois de façon plus ou moins officielle. C'est là que c'est intéressant, parce que la frontière va être un champ de bataille, un domaine d'extension anglo-normand. Alors, les terres irlandaises conquises sont intégrées au système légal anglais. Est-ce vraiment une colonisation alors ? On y reviendra dans les épisodes suivants. Mais ce qui se crée, c'est une zone dynamique, cette zone de frontière, où les barrières physiques et légales sont floutées. La frontière n'est pas seulement entre une terre anglaise et une terre irlandaise. Il est fondamentalement entre ce qui est légal en Angleterre et ce qui est interdit. La frontière existe en tant que zone grise. Ces frontières, qui sont venues du traité d'Oxford de 1175, sont un bel exemple de frontières coloniales. Les aventuriers, ceux sans espoir d'avancement, à la hauteur de leurs ambitions, vont sur cette frontière pour se tailler un fief, de façon très littérale. Ils ont toute liberté d'action, vu qu'ils sont dans cette zone grise. Comme ils ne sont pas techniquement dans l'illégalité, ils ne se révoltent pas face à Henri par exemple, ils peuvent revenir dans la zone blanche, à l'intérieur de la frontière, et là alors, bénéficier des avantages et de la protection de l'État. À mesure que la frontière légale s'étend et se solidifie, on passe des aventuriers aux administrateurs. Ce sont des profils différents, avec des rôles différents et des attentes. Dans le cas de l'Irlande, ces aventuriers anglo-normands vont travailler sur les frontières du royaume vassal, de façon complètement indépendante, mais voyant leur gain légitimisé a posteriori par Henri, étendant ainsi le périmètre de la colonisation. A l'inverse, leurs échecs n'entachent pas Henri, notamment sa gloire, vu qu'ils agissent hors de son contrôle. Il va y avoir une période de centralisation. La frontière normande va reculer au profit des gaéliques. Mais en même temps, les terres conquises vont être intégrées dans l'organisation de la couronne anglo-normande. Les sujets sur cette terre auront les mêmes droits et les mêmes devoirs. Des colons viendront, en petite quantité. Ça durera un siècle environ. Puis d'autres problèmes, plus pressants, viendront peser sur la couronne anglaise qui se désintéressera de l'Irlande. Et les gaéliques reprendront du poil de la bête, réaffirmant leur présence et leur pouvoir. Les seigneurs anglo-normands devinrent hiberno-normands, d'Hibernia, long latin de l'Irlande. Les bardes leur composeront des poèmes en gaélique, ils se marieront avec des élites gaéliques, deviendront les élites gaéliques. Mais ça, nous en parlerons dans les prochains épisodes. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner par SoundCloud, mais on est aussi sur Deezer et Spotify et toutes les plateformes de podcast. Parlez-en autour de vous, partagez, merci beaucoup et à bientôt. Stone dog, let one knee is the horn to a sea.